Détails et billets au safianolin.com.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Shiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Ils ont brûlé les ponts. Ils ont brûlé les ponts. Yeah. Ils ont brûlé les ponts. Yeah. Ils ont brûlé les ponts. Yeah. Ils ont brûlé les ponts.
Ils ont pété les plombs. Hier encore ils ont séché les cours. Maintenant dis-moi qui va passer les ponts. J'trouve de violence dans les gestes et les mots. J'essaie d'élever la voix mais le monde est sourd. J'ai moi-même tissé ma toile pour eux trop c'est trop. J'fais pas juste ça le vendredi soir, j'fais ça tous les jours. On a grandi dans la rue, grandi sous les coups. Ils ont fermé les volets pour peser de la dope. Papa est parti chercher l'argent pour revenir à l'aube. Bah, si je te donne un conseil, ne touche pas la drogue. Ne consomme pas ton produit, ne fais pas confiance à l'homme. J'ai quitté la rue et j'ai mis mes cartes sur la. J'ai vécu, j'ai survécu et j'ai raconté ma life.
C'était probablement un vendredi soir comme les autres, où l'on se réunissait entre amis avec quelques breuvages de joie pour agrémenter le plaisir d'être ensemble. Conversation, jeux, musique et les rires qui résonnent dans les murs du 4,5. C'est dans cette ambiance que notre ami a décidé de nous faire visionner Watt pour la première fois. À peine sorti du numéro d'introduction, que nous le savions déjà que ça allait devenir une tradition. La tradition de se réunir pour entrer dans l'univers déjanté de Bo Burnham.
There's things that I don't want to come across in my show that I worry often come across about me because people don't realize that it's an act up here. I don't want you to ever think that I think I'm better than people or that I think I know better than people. Anyway, sorry. Okay. This is a song from the perspective of God.
Alors, mesdames et messieurs, bienvenue sur la planète des sages qui s'ouvrait au son de la voix de Étienne Quirion. D'abord, bonjour Étienne.
Bonjour Patrick.
Alors, un nouveau collaborateur pour cette émission, absolument. Un fan de Bo Burnham, n'est-ce pas?
Absolument, absolument.
Oui, bien j'ai rien. Alors, tu viens assister cette semaine, François Provost qui a décidé de nous présenter Bo, n'est-ce pas François?
Ben oui, j'ai travaillé fort avec Étienne, car Étienne a été, c'est lui qui a fait que j'ai découvert Bo Burnham. C'est la source de cette belle découverte, donc je te remercie Étienne, je suis content de faire cette émission-là avec toi.
Ça me fait le plus grand plaisir François.
Est-ce que tu faisais partie du groupe d'amis qui se réunissaient?
Non,
ou...
non,
ah,
non,
okay.
On n'est pas vraiment amis,
non, non.
On se connaît.
On se connaît depuis mais... peut-être une 6-7 ans.
Je n'apprécie mais... pas tant que ça.
Moi non.
Au delà du fait que tu m'avais découvert Bo Burnham. Non, c'est pas vrai, on s'apprécie beaucoup, on s'aime ouais. beaucoup.
Donc c'est ça Étienne. Quirion, François Provost et moi, c'est Patrick Couture qui va animer cette émission. Qui, je ne connaissais pas beaucoup Bo Burnham. J'avais déjà
t'avais écouté quelque chose
Inside,
quand même.
Exactement. Et en fait, Étienne, tu avais déjà essayé de me faire écouter un de ses spectacles. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais plus ou moins embarqué, mais je pense que je comprenais moins le niveau, en fait.
Je m'en souviens, j'avais essayé de te faire écouter Watt, justement, dont j'ai parlé dans l'introduction, qui est c'est avec Watt que j'ai découvert Bo Burnham, en fait, puis je m'étais dit « Hey, Patrick, c'est un gars d'humour, je vais lui présenter ça, c'est drôle. » Puis non, je me souviens que t'as fait « Non, pas tant mon genre. »
Mais je dois avouer que depuis, je l'ai redécouvert. Donc, Bo Burnham, c'est celui qu'on écoutait en introduction. Ça faisait partie du spectacle
Watt,
justement.
Ça faisait partie de Watt.
Donc, c'est sa voix qu'on entendait. Et puis aujourd'hui, ben, vous allez vous occuper de nous le faire découvrir, de nous le faire apprécier, parce que je pense que vous l'aimez beaucoup.
Un peu trop, mais oui, on a une grosse émission qui s'en vient. Fait qu'on va commencer tout de suite d'expliquer un petit peu c'est qui Bo Burnham, celui qui a fait la petite joke. Là. C'est drôle.
C'est drôle.
Robert Pickering Burnham est né le 21 août 1990 à Hamilton, dans le Massachusetts. En 90, ça veut dire qu'il n'est pas si vieux que ça. On peut faire le décompte, je pense qu'il a 31 ans. Il vient d'une famille américaine de classe moyenne ordinaire, une enfance tranquille, mais c'est son adolescence qui était un petit peu différente des autres, parce qu'en 2006, Bo a alors 16 ans, et il va devenir à 16 ans un phénomène du web en publiant des vidéos de lui sur YouTube où il performe des chansons humoristiques accompagnées de son piano, de guitare, tout ça. Dès sa première chanson intitulée « My Old Family », ça va devenir viral, mais dans un Internet de 2006, quand on y pense, là, ça fait pas si longtemps que ça, mais l'Internet de 2006 n'était pas pareil comme lui d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de gens qui circulaient sur Internet, qui circulaient sur YouTube, et le phénomène de viralité était quelque chose de relativement nouveau, du moins pour le grand public. Mais lui, il a comme était à l'affût de ce nouveau phénomène-là d'Internet, et il était même, il faisait partie du phénomène. Et on voit déjà, moi je me suis amusé à regarder ses premières vidéos, on voit déjà un talent brut chez le jeune Bo Burnham. C'est, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait, mon Dieu, c'est... Pour un jeune de 16 ans, il est allumé, il est brillant, ça n'a pas de bon sens. C'est fascinant de voir un jeune homme de 16 ans avec autant d'énergie. Là.
Oui, d'énergie.
Tu as vu la même chose que
toi. Oui, et d'énergie, d'ouverture et de... Juste sa façon d'être, sa façon de se présenter, puis...
J'étais pas de même à 16 ans.
Moi non plus, absolument pas. Je faisais des petites chansons à 16 ans aussi, mais c'était pas loin de même. Là.
OK, mais c'est ça. Mais lui, il qualifiait son humour déjà d'avoir une espèce de conscience de soi puis de son œuvre. Il qualifiait son humour de pubescent musical comedy, donc un humour musical pubère. Tu sais, ça parlait d'un adolescent, il parlait de trucs d'adolescent, et il était au courant que c'était très adolescent comme façon
très de procéder. Juste. Comme description, oui.
C'est une époque, comme tu le disais un peu, où il y a beaucoup de ça. On peut se souvenir au Québec, il y a eu des phénomènes semblables. Je me souvenais d'un gars qui faisait le Frank Show, des trucs comme ça. Là, on est dans beaucoup de gens qui découvrent cette possibilité-là de juste mettre une caméra, s'enregistrer et le laisser sur Internet voir, OK, où est-ce que... Qui ça va atteindre? Une espèce de bouteille à la mer.
C'est ça que Burnham a fait. Et il a toujours continué à être intéressé par ça, les gens qui faisaient des trucs un peu random. Là, il disait récemment, mais il est encore sur YouTube, sa manière de consommer, c'est d'aller voir les vidéos qui ont comme 4 vues. Puis c'est de fouiller dans les fins fonds de YouTube. Mais bon, un petit peu après 16 ans, il va décider de ne pas poursuivre des études malgré d'excellentes notes pour entamer une carrière en humour. Il va signer avec Comedy Central Records et va lancer un premier EP de chansons humoristiques sous le terme Bo for Show avant de lancer un LP éponyme intitulé carrément Bo Burnham. Il avait alors 18 ans, très jeune pour entamer une carrière en humour.
Ben oui, puis en plus, si je me trompe pas, c'est la plus jeune personne, Bo Burnham, à avoir été publié par Comedy Central à cet âge-là, à 18 ans. C'était la première personne de 18 ans à avoir un contrat avec Comedy Central.
Et oui, puis il va commencer assez rapidement à faire des représentations devant un public, parce qu'au début, c'est des enregistrements, mais il va faire des représentations et il va mélanger l'humour classique, on pourrait dire le stand-up, avec des prestations musicales où il va souvent être accompagné de son piano. Il aime faire aussi du rap. Il va sortir un autre special, Words, 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 en 2010, qui est à la fois un spectacle d'humour, un album, et suivi de What en 2013, qu'on parlait tout à l'heure. Donc, un spectacle d'humour, un album, un comedy special. Pat, peut-être tu pourrais me dire comment qu'on appelle un comedy special en français. Tu pourrais peut-être...
Spécial de comédie.
OK, on va dire un comedy special. Dans le fond, un numéro d'humour qui a été capté, puis que les gens peuvent voir une des manières qui a été interprétée. Depuis ses premières vidéos, Bo Burnham va développer un style humoristique qui mélange le stand-up, la musique comme étant un véhicule humoristique. Mais dans les propos, on va voir de plus en plus, on va s'éloigner de l'humour plus pubère pour voir émerger plus de commentaires sociaux, d'introspection, de réflexion sur l'art et son pendant diabolique, on pourrait dire, mais l'industrie culturelle que Burnham aime critiquer. Mais on va voir que ces thèmes-là vont vraiment comme... ça va devenir monnaie courante pour lui d'aborder ces termes-là. Et un bon exemple, c'est dans la chanson « Art is Dead », sortie en 2010. Donc, Burnham a 18 ans, mais déjà, il qualifie « l'art est mort ». Un petit extrait comme ça, il dit « The show has got a budget and all the poor people way more deserving of the money won't budget because I wanted my name in lights when I could have fed a family of four for 40 fucking fortnights. » Donc, traduction, le spectacle a un budget et tous les gens pauvres qui mériteraient beaucoup plus l'argent n'y toucheront pas parce que je voulais mon nom en lumière alors que j'aurais pu nourrir une famille pendant des mois. Donc, déjà là-dedans, on voit une critique de l'industrie du spectacle.
Oui, puis une conscience aussi d'en
faire partie.
Ouais, c'est ça, d'en faire partie.
Oui, donc, et le commentaire social, évidemment. Donc ça regroupe plusieurs thèmes qui vont être monnaie courante pour Bo Burnham. Et parallèlement au lancement de Watt, Bo Burnham va commencer à vivre des épisodes de crise de panique sur scène lors de ses prestations avec lesquelles il va devoir apprendre à composer. Mais malgré tout, ça n'empêche pas de sortir un troisième special qui est Make Happy, qui sort en 2016, qui va être un énorme succès, succès critique, parce que dans le fond, Bo Burnham avec Make Happy va plonger encore plus loin dans ses réflexions sur l'art, sur lui-même, va aborder son rapport, on pourrait dire, anxiogène avec le public qui le fait vivre. Et tout ça dans une formule qui mélange vraiment toutes sortes de genres musicaux, humoristiques. Il va jouer beaucoup avec tous les codes des arts de la scène. C'est vraiment pas un spectacle d'humour très classique de stand-up, on pourrait dire. Ou même de classique musicalement parlant.
Mm-hmm. Il joue beaucoup avec ce que j'appellerais en anglais le awkwardness, l'idée de justement surprendre la foule en lançant quelque chose qui n'était pas prévu dans le spectacle. Et justement, le fait qu'il y ait ce mélange de genres, ça participe beaucoup à ça. C'est un de ses premiers spectacles qui s'ouvre avec « Voici la chanson « Men on Fire », c'est quoi?
« World on Fire ».«
World on Fire », ouais.
Et c'est juste trois notes de piano avec lui qui crie ultra aigu. Ouais. Après ça, la prochaine chanson. Ce jeu-là de comment ça va être un spectacle de musique, hein, finalement, ça va être du stand-up, donc de faire des revirements, oui, comme ça pour vous surprendre.
Il joue beaucoup avec ça, comme des fois dans « Make Happy », justement. Parce que c'est ça, il veut un peu tuer la prévisibilité. Et il réussit très bien. Comme à un moment donné, il se dirige vers son piano. Là, tout le monde dit ah, OK, il va nous faire une chanson. Puis là, il fait juste se revirer de bord. Ah, vous pensiez que j'allais faire une chanson? Non, pas vrai. Je vais continuer à vous parler. Fait que, il joue beaucoup avec ça, de juste toujours surprendre le public.
Et justement, après 2016, malgré qu'il maîtrise de plus en plus l'art de la scène, il va arrêter de faire du stand-up pour se concentrer sur d'autres projets. Il va jouer dans des séries TV parallèlement à tout ça. Il va faire la réalisation de spectacles d'humour. Il va écrire et réaliser le film « 8th Grade », donc 8e année, qui va sortir en 2018. C'est un film de comédie dramatique qui raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui doit composer avec de l'anxiété et qui va chercher l'acceptation des autres et tout ça devant composer avec une nouvelle réalité qu'amène le phénomène du web, les médias sociaux et tout, donc est quand même quelque chose de très important pour les adolescents contemporains. Et le film va avoir également un très, très bon succès critique. Et là, en avril 2021, donc c'est encore tout frais, on est encore en pleine pandémie de COVID-19 et Bo Burnham lance Inside, qui sera présenté sur Netflix en tant que, encore une fois, le comedy special. Mais le bon terme, ce serait plutôt un Gesamtkunstwerk.
Absolument.
Ah, vous êtes d'accord?
Vas-y, show off, François.
Non, mais les Allemands ont cette tendance-là à avoir des mots qui n'ont pas d'équivalent pour nous.
C'est presque l'équivalent d'un mot valise, dans le sens qu'ils créent des nouveaux termes à partir de concepts qui s'amalgament ensemble.
Pour décrire des nouvelles réalités, des fois, qu'il n'y avait pas avant.
Oui, et Gesamtkunstwerk, c'est pas juste un album de Dead Obies, parce que c'est aussi le cas, mais c'est un mot allemand qui veut dire, grosso modo, une œuvre d'art totale.
Absolument.
Où on va mélanger toutes les... pas toutes, mais en tout cas, un grand nombre de d'art dans une même œuvre.
Oui, puis petit parallèle musical, ça c'est né... peut-être pas né, mais en tout cas, ça a été popularisé par Wagner, qui est un compositeur allemand du 19e siècle, qui lui... voulait avoir un contrôle sur tout, que ce soit les décors, la scénarisation, les costumes, la musique. C'est lui qui composait tout. Puis c'est lui qui qui gérait absolument tout, puis il fallait pas que ça déroge de ce qu'il voulait, sinon il se fâchait. Il fallait vraiment un contrôle sur tout.
C'est un concept que n'importe quel universitaire qui étudie de près ou de loin le domaine des arts va finir par étudier dans un de ses cours.
Absolument.
Ah. Tout le monde, moi aussi, je l'ai croisé dans mon parcours.
Ah, moi, c'est avec des doobies. mais c'est intéressant, juste pour dire, Étienne, toi, tu étudies en musique, fait que le contexte de Wagner, ben, c'est un angle que tu, qui est intéressant, que tu t'amènes à l'émission aujourd'hui. Mais donc, Inside, c'est un film, on pourrait dire, un film musical. Il y en a qui mettent des parallèles avec The Wall de Pink Floyd, un peu dans cette idée-là. Il y a, à
certains
points,
un peu conceptuel en soi, on en reparlera tantôt. Mais
un peu moins drôle, évidemment. Mais donc, c'est un film musical d'une heure et demie que Bo Burnham a entièrement fait seul, écrit, réalisé, filmé, name it. Tout a été tourné dans une seule et unique chambre. Et grosso modo, Inside, ben, c'est du génie.
On va se le dire.
C'est drôle, entre autres, mais c'est aussi beaucoup plus que ça. Moi, comme j'aime le dire, c'est que l'humour dans Inside est un cheval de Troie. Bo Burnham nous attire. Hey, venez dans mon special, ça va être drôle. Ah, ben oui, ça va être drôle, je veux rire. Et finalement, oups, on est confronté à beaucoup plus de choses que de l'humour. Et finalement ça devient une œuvre d'art total. C'est un énorme succès populaire et critique. Après plusieurs mois de sa sortie, moi j'en reviens toujours pas. Il y a des, tu sais, comme plein de milliers d'internautes, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression, un public qui est très proche de Bo Burnham, qui vont juste sur YouTube, il y a des centaines de vidéos qui essaient de comprendre les propos d'Inside. Il y a des essais vidéo qui essaient de comprendre ce qui s'est passé, qui sont dithyrambiques par rapport à cette œuvre-là. Il y a comme développé un culte.
Oui, et tu dis que ça touche beaucoup la communauté Internet. Il faut dire qu'il y a quelque chose dans le parcours de Bo Burnham de justement partir de faire des vidéos seul avec sa caméra sur Internet et là d'arriver à transposer la queerness que je parlais tantôt, qui est plus propre à Internet. Il arrive à le transposer sur scène. Puis après ça, il y a tout un mouvement de revenir vers la forme audiovisuelle, mais de transporter son bagage scénique et son bagage Internet. Donc, on dirait que c'est un peu le mélange de tout ça, là, le fait qu'il ait tout fait tout seul, qu'il ait une impression de comédie musicale. En tout cas, je pense que son parcours facilite cette impression unique qu'on a à l'écoute de Inside.
Oui, on pourrait dire qu'il joue beaucoup avec les codes d'Internet, et c'est quand même relativement des nouveaux codes, parce que Internet, ça bouge tellement vite que il y a tout le temps de nouveaux phénomènes, puis le temps qu'une œuvre réutilise ces choses-là, ben il va en avoir des nouveaux. Mais c'est ça qui était spécial, paradoxalement, alors que Bo Burnham développe un culte à Bo Burnham qui se développe. Lui, il n'a jamais autant été éloigné de la sphère publique. Depuis Inside, il n'a pas fait d'apparition sur la scène médiatique. Encore à ce jour, il n'a pas commenté publiquement le succès d'Inside ou expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Dans le fond, avant d'aborder les thèmes d'Inside et justement les thèmes classique de Bo Burnham dans son œuvre. Je voulais profiter, Étienne, justement des connaissances en musique pour développer un angle que généralement à la planète des sages, on connaît moins, l'angle musical. Donc ça va permettre de révéler une partie justement de ces drôles d'un des véhicules de l'humour, mais qui est la musique.
Oui. Oui, ben en fait, c'est ça, c'est que Bo Burnham, c'est difficile de séparer le texte et la musique, parce que les deux sont vraiment toujours ensemble. Mais si on recule, mettons, plus loin, qu'on retourne vers dans ses débuts en 2006, avec ses débuts YouTube, mais aussi avec Bo for Show et son album éponyme, la relation entre le texte et la musique est différente de ce qu'elle est plus tard. C'est que le texte est vraiment au premier plan, puis la musique est juste là pour... C'est un véhicule, en fait, de l'humour. C'est un véhicule de ses textes. C'est vraiment juste là pour accompagner... puis c'est pas des chansons qui sont excessivement compliquées au point de vue musical, là. C'est souvent des chansons pop à quatre accords avec un accompagnement rapide, léger, mais qui va quand même avoir certains contrastes à travers.
Je pense qu'on peut faire un parallèle avec beaucoup d'humoristes qui utilisent la musique dans leur spectacle, où on a quelque chose de très simple et le but est juste de rendre un peu plus dynamique la formule de construction de blagues comme on l'a à l'oral.
Oui, c'est exactement ça. C'est ça qui se passe avec Bo Burnham dans ses débuts. Puis, tu sais, c'est toujours des formes, tu sais, couplets, refrains, c'est ça, la musique est juste là comme pour accentuer ça. C'est pas excessivement compliqué. Fait que je dirais que même aussi, il faut penser qu'il était jeune aussi quand il a commencé à 16 ans. Il est très, je dirais, musicalement de son âge. C'est-à-dire, on s'attendrait pas que quelqu'un de 16 ans... Je sais pas exactement, malheureusement, c'est quoi son parcours, c'est quoi sa formation musicale. mais c'est quand même, c'est ses traits de son âge. Mais au point de vue textuel, par contre, au point de vue des textes, c'est... Il y a clairement une aisance de plus, comme on parlait tantôt, là, que quelqu'un de cet âge-là aurait normalement. Il y a déjà un éveil, une intelligence, une facilité. Il va quand même utiliser cette facilité-là pour avoir un humour qui est... déjà, en partant, il est vraiment plus sur l'humour. On parlait un peu d'introspection qui va s'introduire plus tard dans sa carrière, mais au départ, c'est vraiment plus vers l'humour qui est un peu vulgaire, autodérisoire, ironique. Puis, tu sais, ça joue dans ces eaux-là. Et en écoutant beaucoup de Bo Burnham, j'ai vu des parallèles vraiment frappants avec un Montréalais, je ne sais pas si vous le connaissez, du nom de John Lajoie.
Oui, il a joué dans l'Auberge chinoise, oui. Je le connais pour ça.
Oui.
non, je le connais pour ses vidéos YouTube.
Mais il y a vraiment des parallèles parce que les deux, en fait, ont été dans les précurseurs de YouTube. T'sais, ils ont été là à partir de 2006-2007 environ, peut-être même John Lajoie un petit peu avant, mais les deux ont un style musical, en fait, qui est très semblable. Qui va être autour du pop et du hip-hop, un peu. Mm. Ils vont aborder des thèmes qui sont très similaires aussi. Puis même, si vous avez le temps, vous irez voir, mais il y a des similitudes dans les vidéos, même. Ils ont des vidéoclips. Si on prend, par exemple, Bo Burnham, avec son vidéoclip de Words, 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 il y a une scène qui est presque identique à Pop Song de John Lajoie, puis les deux sont sortis à 2 mois d'intervalle. Mm. C'est vraiment intéressant. Ils ont une vision un peu similaire, quoique différente, mais quand même similaire. Côté musical, si on avance après ça, puis qu'on va voir dans Words, 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 en 2010, il y a quand même une progression notable au niveau de l'harmonie, la mélodie, les arrangements, toute la technique musicale, quand même des progrès. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on va voir par la suite, parce qu'il y a quand même juste un an entre ce qui se précédait et Words, 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 mais quand même, on sent qu'il y a un souci du détail qui est mis de l'avant. La musique commence à prendre un peu plus d'importance, désolé. Après ça, la plus grande progression qu'on peut voir, vraiment, c'est entre Words, Words, Words et What. Là, vraiment, il se passe quelque chose.
Il y a 3 ans que c'est écoulé.
3 ans que c'est passé, c'est ça. On voit qu'il y a eu le temps, je pense, de réfléchir plus à sa musique. Et justement, la musique commence à prendre plus de place, encore plus qu'avant. Si on parle juste, il y a déjà plus de liberté qui s'accorde dans la musique. On sort vraiment du carcan de 4 accords. On va vraiment vers quelque chose qui va suivre le texte plutôt que de l'accompagner. Ça, c'est vraiment la différence que je pourrais marquer. Parce qu'avant, c'est ça, la musique accompagnait le texte, mais là, vraiment, il va suivre son texte et il va faire des jeux musicaux pour mettre en valeur le texte plutôt. Puis si on prend juste l'intro de What, qui est un numéro d'environ 8 minutes, il y a déjà des codes que je dirais s'approchent vraiment de la musique progressive parce que c'est sectionné, il y a des changements de tempo, il y a des dizaines d'instruments différents, il crée des nouveaux thèmes, il crée des nouvelles approches et c'est super, super bien construit. Puis il va aussi s'en permettre beaucoup plus au point de vue harmonique, comme avec des accords diminués 7 qu'il n'avait pas encore utilisé jusqu'à présent.
Ces fameux accords
diminués 7. Ah oui. Mais c'est ça, il y a vraiment un souci qui est accordé à la qualité musicale et à la qualité de la production. Mm. Et le plus intéressant dans What, je trouve, c'est la finale « We think we know you ».
Ah oui, c'est
incroyable, c'est incroyable.
Excusez, on est fans, là.
Parce que ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est le premier numéro de Bo Burnham dans ses spéciales qui est vraiment juste la musique, en fait. Oui, il y a un prémisse qui va être introspectif beaucoup, justement, parce que c'est comme « We think we know you », on pense qu'on te connaît, puis il parle des rencontres qu'il a faites avec des gens qui croyaient, en fait, le connaître plus que lui-même se connaissait. Mm-hmm. Mais après ça, il fait juste tomber dans un numéro musical qu'il va utiliser avec l'échantillonnage des conversations qu'il a eues avec ces gens qu'il jugeait. Puis ça tombe juste dans un numéro musical complètement déjanté, qui très efficace pour une finale de spectacle et auquel le public ne s'attendait pas du tout. Là. C'est super bien construit.
Oui, mais il y a beaucoup de jobs de construction. Ah, oui. Ça a dû être long à faire au niveau de la production, de comment que tout ça a été construit. Ouais.
Ah, vraiment. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est très intéressant. Après ça, il y a Make Happy en 2000. En fait, il a fait la tournée en 2015, mais qui est paru en 2016. C'est vraiment la suite logique de What. Côté musique, parole, super. Ça suit complètement What. Ils vont introduire un peu plus la parodie et le pastiche, notamment dans Country Song, qui va rire des chansons de Stadium Country, qu'on appelle, en réutilisant les codes.
Oui, d'ailleurs, c'était ma question parce que moi, j'ai surtout vu Inside sur lequel tu arrives éventuellement, où on est vraiment beaucoup là-dedans, là. Parodie. Ouais. Je trouve que pastiche est probablement plus juste.
Oui.
parce que la volonté de reprendre les codes pour reprendre aussi certaines thématiques, une esthétique, mais pas nécessairement de rire littéralement, non, en exagérant dans le tapis. Il s'approche le plus possible, en fait, du style réel.
Oui.
Et je me demandais, musicalement, toi qui composes la musique, à quel point c'est quelque chose de difficile à faire pour un bon musicien de justement prendre, saisir les codes de la pop et les faire. Parce que souvent, la critique qu'on fait de, mettons, la pop, c'est facile, mais reste que des bonnes chansons pop qui pognent beaucoup, c'est pas tout le monde qui est capable d'en sortir. Donc, Bo Burnham, quand il fait ça, il va prendre les codes d'une chanson country et qu'il réussit à la faire et qu'on ait vraiment l'impression que ce soit que c'est une chanson country, à quel point ça demande un talent, une intelligence?
Bien, ça demande un talent qui est quand même, je dirais, un peu supérieur à la moyenne, là, parce que c'est quand même plus difficile qu'on le pense. Parce que, tu sais, on se dit, ah, c'est facile, tu sais, mettons toutes les chansons pop, c'est facile, c'est tout le temps la même affaire. On est capable de facilement identifier les codes. Mais après ça, de prendre ça et de faire quelque chose qui va se tenir quand même, qui sera pas comme, ah, c'est exactement, ah, il fait juste copier ça, il a juste copié ça, puis il a changé quelques affaires. Parce que Bo Burnham, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il prend les codes, mais il crée quand même quelque chose d'unique. Que tu vas dire, ah, OK, il y a vraiment comme copier ces codes-là, mais tu n'es pas capable de l'attribuer à un artiste, tu n'es pas capable de l'attribuer à une chanson ou à un style précis. Il va vraiment avoir ce talent-là pour s'approprier les codes et créer quelque chose avec ça.
Puis quand tu fais une pastiche, tu veux réutiliser les codes, ça reste qu'il faut que tu fasses un produit unique à partir de ça. Donc, il faut que tu t'appropries ces codes-là puis que tu fasses un œuvre singulier quand même. Ça peut pas être, justement, comme Patrick l'a dit, mais ça peut pas être comme copier-coller. Il faut vraiment que il y a un effort de création quand même.
Oui.
Donc, assimiler les codes pour faire un produit qui fit avec ça, mais qui est pas totalement...
Puis je dirais pareil. Que des fois, c'est même presque plus difficile de le faire et de le réussir que de, mettons, partir d'absolument rien et de juste essayer de composer quelque chose de nouveau avec aucun code autour. Parce que t'es comme dans une espèce de carcan, mais en même temps... c'est la notion de il faut pas que j'aille trop dedans, mais en même temps, il faut pas que j'en sorte trop. C'est la question d'équilibre qui est dure à aller chercher, finalement. Puis Bo Burnham le réussit ça très, très bien. Sinon, après ça, ben, on arrive avec Inside, qui, ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un génie, ce gars-là, on va se le dire. Puis c'est ça. Il est encore vraiment dans le pastiche à ce niveau-là, parce que, je veux dire, toutes ces pièces sont... T'as l'impression un peu de rentrer dans un univers que tu connais déjà. Mais en même temps, comme je disais, ça reste quelque chose de très unique. Puis chaque pièce et chaque chanson est différente, finalement. Et c'est ce qui rend ça si agréable, c'est que t'as pas l'impression d'écouter 12 fois une chanson qui se ressemble avec des variations juste pour les paroles. C'est qu'il va vraiment créer un univers musical, mais aussi il va l'appliquer avec son univers visuel, ce qui fait qu'on embarque dans Inside. Et moi, je sais pas pour vous, mais plus j'écoute Inside, plus j'ai l'impression d'être dans la pièce avec lui. J'ai vraiment l'impression d'être là puis de me sentir un peu dans son
état. On
immerge, on plonge dans son monde. Puis ça, c'est quelque chose de fantastique qu'il était capable de faire avec l'aspect musical. Parce qu'encore là, sa musique se complexifie tout en restant assez simple pour rester accessible. Et ça fait juste quelque chose de super intelligible.
Et musicalement, c'est bon.
C'est bon, c'est ça.
On parlait de ça. Normalement, des chansons humoristiques, t'écoutes ça, tu trouves ça drôle au début. Peut-être des fois, OK, le beat est intéressant, il y a une mélodie qui pogne. Mais moi, les chansons qui viennent de ce special-là, je les écoute en boucle.
Moi aussi.
Au même titre qu'une chanson qu'on pourrait dire sérieuse. Le but n'est pas d'être humoristique.
C'est ça. Il a trouvé cet équilibre-là pour qu'on apprécie la musique et le contenu. Ce qui n'est pas facile à faire, justement.
Oui, et pour créer aussi une unité, puisqu'on est capable d'écouter l'album de Bo Burnham, ben, comme vous le faites beaucoup, en appréciant justement le fait que ce soit quelque chose de complet, de fermé, si on veut. Mais même si chaque chanson va quand même pasticher un style différent.
Ouais.
D'ailleurs, on va s'apprêter à écouter une des chansons qui est Welcome to the Internet, qui parodie le style, je pourrais dire, un peu la chanson foraine. Je ne sais pas s'il y a quelque chose
Oui, absolument.
Cirque. On va pouvoir entendre ça après quelques publicités. Donc, restez avec nous à Chiz 94.3 sur la planète des sages. On s'intéresse à Bo Burnham aujourd'hui et on a des animateurs très, très enthousiastes. Alors, on écoute quelques publicités. Welcome to the Internet et on se retrouve.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas, Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Welcome to the Internet. Have a look around. Anything that brain of yours can think of can be found. We've got mountains of content, some better, some worse. If none of it's of interest to you, you'd be the first. Welcome to the Internet. Come and take a seat. Would you like to see the news or any famous women's feet? There's no need to panic. This isn't a test. Just nod or shake your head and we'll do the rest. Welcome to the Internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Be happy, be horny, be bursting with rage. We got a million different ways to engage. Welcome to the Internet. Put your cares aside. Here's a tip for straining pasta. Here's a 9-year-old who died. We got movies and doctors and fantasy sports and a bunch of colored pencil drawings of all the different characters in Harry Potter fucking each other. Welcome to the Internet. Hold on to your socks, cause a random guy just kindly sent you photos of his cock. They are grainy and off-putting. He just sent you more. Don't act surprised, you know you like it, you whore. See a man beheaded, get offended, see a shrink. Show us pictures of your children, tell us every thought you think. Start a rumor, buy a broomer, send a death threat to a boomer, or DM a girl and groomer, do a zoomer, find a tumor in your. Here's a healthy breakfast option. You should kill your mom. Here's why women never fuck you. Here's how you can build a bomb. Which Power Ranger are you? Take this quirky quiz. Obama sent the immigrants to vaccinate your kids. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. You know, it wasn't always like this. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa 99, this was catalogs, travel blogs, a chat room or two. We set our sights and spent our nights waiting for you, you, insatiable you. Mommy let you use her iPad, you were barely two, and it did all the things we designed it to do. Now look at you. Oh. Look at you. You. Unstoppable. Watchable. Your time is now. Your insides out. Honey, how you grew. And if we stick together, who knows what we'll do. It was always the plan
to put the world in your hand. Could I interest you in everything all of the time? A bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything all of the time. Could I interest you in everything all of the time? A little bit of everything all of the time. Apathy's a tragedy and boredom is a crime. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time.
Alors, nous écoutions Welcome to the Internet par Bo Burnham, tiré du spectacle Inside. C'était votre choix pour cette émission consacrée à Bo Burnham. Pourquoi cette chanson en particulier?
Ben, moi, ça a été la première chanson que j'ai consommée qui provient d'Inside, parce que c'est la première chanson qui a dévoilé.
Qui a dévoilé avant, ouais. Puis moi aussi, j'avais pas, justement, ben, comme je disais à l'intro, j'attendais de me réunir avant de l'écouter. Mais finalement, c'est ça, il avait sorti ça, fait que je l'ai écouté aussi avant. Et ouais, moi aussi, c'est la première que j'ai écoutée. Puis aussi, je dirais que The Inside, c'est probablement la chanson qui s'exporte le mieux, mm-hmm. si je peux dire, parce qu'on n'a pas besoin du contexte d'Inside au complet pour apprécier la chanson, tant musicalement qu'au niveau du sujet. C'est une chanson qui se tient puis qui n'a pas besoin de son contexte.
Oui, et justement, qui aborde tous les sujets autour d'Internet. Et honnêtement, il n'y a pas tant de... Moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de produits culturels qui réussissent à aussi bien illustrer le phénomène d'Internet comme Bo Burnham le fait. Pas simplement comme c'est un médium, puis oui, on le consomme beaucoup, mais cette idée-là d'une espèce d'environnement presque chaotique où tout est possible et que cette espèce de potentiel de tout est possible t'attire et te fait plonger là-dedans, puis jusqu'à un point où il y a justement, c'est comme un vilain qui t'attire vers là. C'est comme,
absolument,
je vais t'emprisonner dans ce monde-là. Donc, une critique qui vient avec
mais
ça.
C'est souvent le cas avec des choses qui sont nouvelles, finalement, dans l'art, une incapacité, on dirait, quand ça l'arrive, pour beaucoup, l'intégrer à l'art, parce que c'est pas encore tout à fait assimilé. Puis je pense que ce qui participe au fait que c'est aussi réussi chez Bo Burnham, je trouve ça bizarre juste l'appeler Bo, c'est que justement, lui, il est né là-dedans, dans le sens artistiquement, il est né dans Internet, mm-hmm. donc il a même pas, c'est pas réfléchi. Je sais pas, je pense à un exemple niaiseux, mais dans les films, au début peut-être des années 2000, peut-être plus 2010, quand les textos, c'est devenu super populaire, les films voulaient intégrer comme à l'esthétique les textos, puis c'est toujours pas tout à fait right on comment ils l'utilisaient. Puis tu sentais que c'était des gens qui étaient comme, ah ben tu sais, je dis pas, ces gens-là devaient utiliser aussi des cellulaires et texter, mais ça faisait pas assez partie de leur imaginaire, on dirait, pour que ce soit bien intégré au film, tandis que Bo Burnham, ben, est un produit presque de l'Internet, donc ça fait partie intégrante de son œuvre et c'est réussi.
Et oui, et cette chanson-là va avoir beaucoup plus de sens quand on l'intègre dans le contexte global qu'est Inside, parce que c'est un des thèmes centraux, l'utilisation d'Internet, des médias sociaux, les nouvelles technologies. Mais il y en a beaucoup d'autres et comment qu'ils les jonglent avec et qu'ils sont comme tout intriqués les uns avec les autres. On parle dans les autres thèmes de la santé mentale, qui est un thème beaucoup important, très important, et on pense pas justement quand on écoute un comedy special que le thème de la santé mentale soit parlé de cette manière, soit surtout illustré de cette manière-là.
C'est autant mis de l'avant, en fait.
Oui, et donc, mais c'est un thème super important. Il y a aussi le pessimisme face à l'avenir, quelque chose de très dystopique dans l'œuvre de Burnham, sans être totalement dénué d'espoir. Mais il y a on met de l'avant plusieurs caractères un peu spéciaux de la société actuelle. La chanson, par exemple, That Funny Feeling, qui est un ensemble d'observations sur le monde actuel puis comment il est déroutant un peu aujourd'hui, ce monde-là.
Oui, oui, qui n'est pas tout à fait conséquent. Enfin, il n'est pas tout à fait cohérent.
C'est ça. Qu'est-ce qui rend ça d'autant plus incohérent puis on pourrait dire dystopique, c'est un autre thème qui est utilisé, c'est les inégalités sociales liées aux revenus, au genre ou à l'ethnie. Sans que ce soit un œuvre de commentaire social, il va toujours avoir cette partie-là dans l'œuvre de Burnham et il s'en détache pas. Il réalise toujours qui fait partie c'est de ça. Ces problèmes-là, en tant qu'à la fois homme blanc très chanceux, mais également en tant qu'artiste qui s'accapare l'attention de plein de gens, alors qu'on pourrait être en train d'être attentif à des situations qui méritent correction.
C'est ça, il cache pas qu'il en fait partie, puis il cache pas aussi qu'il y a de la misère à se positionner là-dedans. C'est ça qui est... C'est vraiment, ça fait partie de son...
Oui, ben le début d'Inside, où il y a une chanson où c'est littéralement ça, de c'est comédie, je pense, le nom de la chanson, de je devrais faire de la comédie en ce moment. Et à un moment donné, il y a la réflexion de comme, mais je pourrais aussi me fermer la gueule. Et là, il fait un petit silence. Non!
Mais je m'ennuie. Ouais. Mais c'est ça, il y a un des autres thèmes, et finalement, c'est le sens de l'humour. Mais quand je dis le sens, c'est du point de vue existentiel et le sens en général de l'art. Mm. À quoi ça sert tout ça? Mm-hmm. C'est comme, il crée l'art, il crée l'humour tout en se demandant, pendant qu'il le fait et nous fait, on est témoin de ça, il se pose la question à quoi ça sert ce que je fais, de ce que je suis en train carrément de vous offrir et que vous regardez en ce moment.
Oui, et moi, je vois les limites de l'humour. Encore une fois, pas dans... c'est vrai que c'est des concepts qu'on utilise pour parler d'autres choses aujourd'hui.
Oui, liberté d'expression et compagnie.
C'est ça, mais c'est un peu là, mais plus ou moins ces limites-là de l'humour, mais plutôt à quel point l'humour, c'est un moyen limité pour nous aider dans la vie. Dans le sens que l'humour, oui, bon, OK, ça fait du bien, on va rire de des sujets, ça va nous en détacher 30 secondes, mais à un moment donné, c'est où la limite de tout ça, à quel point ça continue à être utile après un certain temps, à quel point on peut faire une carrière basée là-dessus, comme le fait Bo Burnham. Quoique, justement, Inside, je pense, ça tend à sortir de l'humour.
Oui, il jongle avec ces sujets-là et... Il se pose la question, on n'a jamais vraiment de question, il n'y a pas une conclusion claire de finalement, on le voit juste jongler avec ces questions-là. Et moi, justement, il y a 1000 interprétations possibles d'Inside, et je pense que ça témoigne à quel point c'est un œuvre assez fantastique, mais une manière de l'aborder et comment je voyais justement comment il pouvait se permettre d'aller dans plusieurs thèmes comme ça, c'est que dans Inside, c'est que l'œuvre en tant que telle est centré sur, justement, le titre est bien choisi, sur la notion d'intériorité, qui est vraiment d'une complexité très, 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 très incroyable quand on prend un instant, parce que Inside, c'est pas seulement une œuvre de confinement. Certains l'ont évoqué parce qu'évidemment, on était tous pognés chez nous à ce moment de notre vie. On devait tous être confinés, on avait moins de contact avec les autres. Donc, il y a un indice, on pourrait dire, historique, contextuel à ça. Mais cela dit, ce qui arrive, c'est que Inside, il n'y a jamais une référence directe à ces événements-là. On comprend le contexte, mais il n'y a jamais les mots pandémie, jamais les mots COVID-19. Et je crois que Inside ne perdra pas de sens à ce niveau-là avec les années qui vont à venir, étant donné que ça réussit à s'émanciper, quoique très bien illustré manifester quelque chose de ce qu'on vivait tous à ce moment-là avec le confinement, mais sans être dépendant de ce contexte-là pour avoir une œuvre qui se tient. Le sens reste, c'est juste un autre niveau de sens.
C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement de niveaux de sens dans Inside que, comme tu dis, même si il n'y avait pas eu le COVID, même si quelqu'un n'aurait jamais eu conscience du COVID, pourrait l'écouter puis quand même se sentir interpellé par les thèmes abordés, les thèmes de solitude et tout ça, c'est pas, ça reste assez présent puis assez bien décrit puis assez large que n'importe qui pourrait s'y attacher.
Ben, selon moi, c'est le propre d'une bonne œuvre de manière générale, c'est-à-dire de s'ancrer dans un contexte assez précis pour aller trouver son originalité, mais ensuite de réussir à toucher un certain universel, finalement. Ouais.
Et justement, donc la notion d'intériorité, elle n'est pas comme physique, elle n'est pas spatiale, vraiment comme confinée à nos espaces. Moi, comment je le vois, c'est qu'Inside, c'est un seul et unique décor. On dirait que la chambre est une espèce de surface où Burnham va projeter une partie de son intériorité. C'est à travers des chansons plus comiques, des fois, il y a un focus qui est maintenu plus sur un phénomène culturel comme White Woman Instagram, Sexting, mais il y a des chansons, justement, comme tu parlais, Pat, comedy, où on assiste à ce qu'on semble être un réel conflit interne entre un Bo Burnham, dont le travail est d'être un humoriste, un entertainer, de faire rire les gens comme gang-pain, mais un Bo Burnham qui n'a pas envie de faire rire tant que ça. On dirait qu'il est plus dans une inflexion de « je veux faire de l'art » je veux le faire de l'art, en plus se faire rire, il y a une question de est-ce que ça sert dans le monde où on est aujourd'hui, à quel point le rire est utile, mais aussi c'est, on dirait, un Bo Burnham qui n'a peut-être pas envie de rire, parce que lui, il se questionne sur le sens de son travail dans le big picture de l'histoire humaine, mais tout en étant confronté à des problèmes de santé mentale. C'est explicitement mentionné dans Inside, mais c'est aussi c'est manifeste dans la manière que c'est montré, mais il doit vivre avec des problématiques de santé mentale à travers cette construction-là d'Inside. Et là, la limite entre le réel et la fiction est difficile à savoir. Est-ce qu'il était vraiment dans une période difficile pour lui? On dirait que oui, surtout quand on connaît le contexte où il vivait des troubles, des crises de panique quand il était sur le stage quelques années plus tôt, et qu'il le dit explicitement qu'il est allé chercher de l'aide et il a réussi à s'améliorer. Mais on voit que dans cette période-là, on dirait qu'il y a un fond de réel qui était quelqu'un qui doit couper, on pourrait dire, oui. Faute de meilleur terme en français, avec des problématiques de santé mentale, et qui nous montre, comment dire, ça en train de se dérouler devant nos yeux dans un spectacle.
Oui, puis c'est intéressant aussi parce que justement dans Inside, à un certain moment, il parle justement qu'entre Make Happy et Inside, il y a eu un 5 ans où il essayait de travailler sur lui-même parce qu'il avait de la difficulté justement avec sa santé mentale. Puis là, il arrive finalement en janvier 2020 et qu'il se dit « Hey, savez-vous quoi? Je pense que je me sens prêt. Je suis prêt, je vais recommencer à faire la scène, je vais revenir, là, je sens que j'ai travaillé sur moi et que ça va bien. » Puis là, il dit « And the funniest thing happened. »
Et c'est le plus proche qu'on a d'une référence à la pandémie.
C'est le plus proche qu'on a. Mm. C'est la seule chose qu'on pourrait associer à ça. Puis encore là, c'est pas explicitement dit. Mm-hmm. On le comprend parce qu'on a le référent, mais quelqu'un pourrait l'interpréter autrement s'il n'y avait pas le référent de la COVID, par exemple.
Oui, et justement, cette manière d'aborder la santé mentale, bien, en fait, on est dans une société au moins qui se dégêne par rapport à ça. Ça devient de moins en moins tabou. On est capable d'en parler convenablement, mais ça reste quelque chose de... on pourrait dire de... Justement, quand on dit tabou, mais quelque chose d'intime. Chaque être humain vit des épisodes plus ou moins souffrants dans leur vie. Puis il y a généralement, à part des gens qui sont proches ou des gens à qui on va chercher de l'aide, des intervenants en relation d'aide, par exemple, on souffre pas là-dessus de cette part d'intériorité qui nous est totalement dévoilée dans Inside. Et je crois que ça explique en partie pourquoi il y a certaines personnes, parce que j'ai déjà entendu le commentaire, qui le fait d'écouter Inside est éprouvant. C'est difficile à voir quelqu'un qui doit conjuguer avec ces problèmes-là. On le voit pleurer par moments. Donc, tu sais, c'est des choses que généralement les gens cachent. On montre notre belle facette, surtout tous les réseaux mm-hmm. sociaux. C'est un sujet également abordé par Bo Burnham, mais on cache cette partie-là de nous qui doit... qui struggle, qui souffre, dans le fond.
Ouais. Oui, puis dans Inside, justement, Bo Burnham, c'est vrai que c'est bizarre juste dire Bo, mais nous amène vraiment, nous montre ça, et c'est volontaire de nous faire vraiment comme entrer dans sa tête, tant au point de vue de ses sujets, de ce qu'il aborde, mais aussi... Je trouve du décor, comme tu sais, le fait qu'il soit juste dans sa pièce et que ce soit toujours en désordre, qu'on voit son matériel, on voit les fils à terre, on voit un piano qui est accroché sur le bord, ça me fait vraiment comprendre qu'il nous montre un peu le bruit qu'il y a dans sa tête à ce moment-là. Il n'est pas capable de nous parler de ça sans nous montrer que c'est difficile pour lui d'en parler. Et c'est un peu, ça symbolise un peu ça, selon moi, de volontairement nous montrer... que c'est très désorganisé, finalement.
Mmh. Je trouve que, par contre, une nuance qu'il faut dire par rapport à ça, c'est qu'on entre vraiment... Le terme intériorité est bon parce que je trouve qu'on n'est pas vraiment dans l'intimité parce que... Étienne, dans la vie, j'ai l'habitude de t'appeler Kyrion. je vais l'accuser tout de suite, là, ça se peut. En tout cas, enfin. Donc, c'est ça, au lieu de... tout l'aspect justement de il y a des fils partout, il y a les caméras, ben c'est en train de nous montrer là je fais une œuvre quand même de fiction. Et ce qui est fascinant à la sortie d'Inside, c'est que même si on était aussi proche de cette personne-là, même si on l'a vu presque complètement nu, autant littéralement que métaphoriquement, mais on réalise que finalement, bon, c'est pas c'est qui ses amis, sa famille, il n'y a pas d'histoire sur sa vie personnelle, il n'est pas en train de s'exposer, de raconter, je sais pas, un exemple qu'on voit souvent, c'est des gens qui exposent beaucoup leur sexualité, donc des aventures sexuelles. Il n'y a aucunement ça dans Inside, on n'est pas dans une œuvre nombriliste de voici mes faits et gestes, comme d'ailleurs on le voit souvent sur Internet, là, dans des statuts Facebook, sur Twitter, dans ces médias sociaux où on peut exposer notre intimité. Donc, on reste dans une œuvre quand même où il y a effectivement l'exploitation des sujets, des thématiques comme la santé mentale et où il va y mettre beaucoup, beaucoup de sien. Il va accepter de montrer des tensions, comme tu disais, François, qui vit à l'intérieur de lui. Mais il fait tout ça dans la direction de l'œuvre, en suivant ce que le spectacle à ce moment-là cherche à faire, cherche à dire. Et ça, c'est quand même, pour moi, assez réussi. Et c'est remarquable quand même d'être arrivé à faire une œuvre comme ça, autant proche de lui, sans tomber dans juste « voici mon intimité à outrance ».
Oui, sans jamais montrer sa vie. Ouais.
Oui, et j'ai l'impression qu'il comprend également un point de haut niveau, cette notion-là de « il va y avoir des gens qui vont assister à ça ». À mon intériorité, je pense à une scène particulière dans la chanson Goodbye où un gros projecteur est dirigé vers Bo Burnham qui est nu, comme tu le disais, Pat, il est manifestement nu, donc symbole de vulnérabilité. Mais le projecteur semble provenir du point de vue de la caméra qui, dans le fond, est nous, c'est notre regard, c'est nous qui regardons. Donc nous sommes le public en train de le regarder dans cette espèce de vulnérabilité que, énorme vulnérabilité, et il le sait, et j'ai l'impression qu'il veut un peu jouer avec cette notion-là pour nous faire reconsidérer cette notion-là du privé, du public, de la vulnérabilité, de « OK, je me dévoile, mais my inside's out », comme il le mentionne dans « Welcome to the Internet », donc mon intérieur est rendu à l'extérieur, mais je vous mets le projecteur vers vous pour vous dire comment vous vous sentez par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'était une de mes questions pour vous. Quand vous avez écouté l'œuvre Inside, est-ce que ça a fait quelque chose? Justement, est-ce qu'il y a un petit dérangement par rapport à ça, de cette notion d'embarquer dans l'intériorité de quelqu'un?
Ben, je dirais que la notion d'embarquer dans l'intériorité, c'est pas nécessairement ce qui m'a le plus choqué. Je dirais, moi, c'est plus aborder les thèmes qui sont quand même des thèmes qui sont, bon, proches de nous. Puis ça m'a quand même... Tout l'aspect d'introspection, ça m'a vraiment plongé là-dedans à la fin d'Inside. Et au départ, je dois dire, je m'attendais à écouter un comedy special. Je m'attendais à rire. Puis j'ai ri, mais j'ai fini de l'écouter. Puis j'ai comme... Ça m'a pris un deux minutes avant de faire « OK, il vient de se passer quelque chose. » Et je suis pas... je suis content d'avoir vécu ça, mais en même temps, on dirait que je suis comme moins à l'aise avec moi-même que je l'étais avant de l'écouter. Je sais pas, il s'est vraiment passé quelque chose.
Il y a un travail qui s'amorce.
Il y a un travail qui s'amorce et ça nous fait nous poser des questions parce que, c'est comme je disais, c'est vraiment des thèmes qui sont proches de nous. Peut-être pas de tout le monde, mais c'est sûr, je me suis quand même senti interpellé par les thèmes qui étaient abordés. Et oui, j'ai quand même eu un... C'est ça, j'ai eu un peu de travail à faire après ça pour me remettre dans le bon état d'esprit.
Moi, je dois avouer que je l'ai écouté en deux fois, en fait. Je l'ai écouté une première fois, morcelé par petits bouts. Donc, j'ai surtout pris au passage... Par exemple, je me souviens que le moment qui m'avait le plus marqué de ma première écoute, c'était White Woman Instagram, parce que je trouvais qu'il y avait un talent incroyable à aller chercher de façon presque exhaustive tous les patterns Instagram. Donc, dans les codes, parce qu'il y a à la fois la chanson qui nomme des choses qu'on voit beaucoup sur Instagram, mais il y a l'image aussi qui s'en va chercher une esthétique toujours right on. Enfin, donc ça, c'était ma première écoute. Et pour l'émission, je l'ai réécouté au complet tout d'un bout. Et là, j'ai vraiment plus senti effectivement ce côté-là dérangeant. Et moi, cette écoute-là, je l'ai beaucoup fait sous l'angle de ce que je parlais tout à l'heure, de justement les limites de l'humour. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose au niveau de l'humour où on sortait tranquillement. Au début, on était vraiment dans une œuvre humoristique. Et puis, tranquillement, on ne l'était plus. Et pour décrire ça, je trouve qu'il y a une théorie qui fit bien avec ce qui se passait. C'est la théorie des scripts de Victor Raskin, qui est applicable à l'humour verbal, qui sera aussi applicable au mème numérique selon un passionnant livre qui s'appelle « Pour que tu m'aimes encore » que je vous conseille d'acheter. Il y a quelqu'un qui a écrit un article sur l'humour dans les mèmes. Il s'appelle Patrick Couture. mais c'est ça. Donc, la théorie des scripts, l'idée, c'est qu'un script, c'est une unité d'information sémantique, donc sémantique relative au sens, qui est assez large et qui entoure un mot qui l'évoque. Donc, par exemple, le mot « pomme », mais là, quand on entend « pomme », on peut penser à « fruits », mais aussi à « couleur rouge », à « l'automne », à « la pomme d'Adam ». Et puis là, une blague, mais on va avoir le chevauchement de deux scripts qui s'opposent complètement ou partiellement. Par exemple, c'est vraiment pas bon, mais hier, j'ai croqué la pomme de mon frère, ça lui a fait mal à la gorge. Là, on comprend, le premier script, je parlais, on pensait qu'on parlait du fruit, finalement, je parlais de la pomme d'Adam. C'est pourri comme gag, mais l'idée, c'est qu'il y a un chevauchement de script, puis les scripts marchent pas ensemble. Un jeu de mots, c'est un bon exemple, mais ça marche avec tout gag verbal. Pour vrai, ça fonctionne, si on analyse comme faut. Et chez Bo Burnham, ce que je trouvais, c'est qu'on est dans cet humour-là, mais qui est tout le temps proche quand même de la réalité, mais ça risque, il y a des blagues, il y a toujours l'opposition, le chevauchement de script, mais tranquillement, on dirait que c'est de moins en moins deux scripts et de plus en plus un, et à la fin du spectacle, ça devient un seul script, il fait juste nous parler de la réalité, il n'y a plus, si on veut, de deuxième degré, pour utiliser un terme plus connu, on est vraiment dans le premier degré de « hey, ça va pas bien ». Et c'est ça qui m'a dérangé, pour répondre à ta question de base.
Ouais, bon.
C'est de partir le cheval de Troie que tu parlais tout à l'heure, c'est de partir de « ah, c'est drôle, ah, c'est plus drôle ».
Et un autre thème qui était abordé dans Inside, mais qui l'est dans dans les autres de ses œuvres et qui est même explicitement nommé dans Make Happy, c'est la performance, l'acte de performer devant un public. Donc, et il le mentionne, c'est pas uniquement, il veut pas comme parler de lui en tant que célébrité qui fait ça et qui a un bagage qui lui est très personnel ou qui est un peu exceptionnel pour tout le monde qui a un public à tous les jours. Mais j'aimerais qu'on écoute la manière qu'il aborde la notion de performance, une qui s'applique, on pourrait dire, à tout le monde aujourd'hui. On écoute ça.
You know, and I feel like I was born in 1990 and I was sort of raised in America when it was a cult of self-expression and I was just taught, you know, express myself and have things to say and everyone will care about them. And I think everyone was taught that and most of us found out no one gives a shit what we think. So we flock to performers by the thousands because we're the few that have found an audience and then I'm supposed to get up here and say follow your dreams as if this is a meritocracy. It is not, okay? I had a privileged life and I got lucky and I'm unhappy. They say it's like the me generation. It's not. It's not... The arrogance is taught, or it was cultivated. It's self-conscious. That's what it is. It's conscious of self. What the social media, it's just the market's answer to a generation that demanded to perform. So the market said, here, perform everything to each other all the time for no reason. It's prison. It's horrific. It is performer and audience melded together. What do we want more than to lie in our bed at the end of the day and just watch our life as a satisfied audience member? I know very little about anything, but what I do know is that if you can live your life without an audience, you should do it. And now you're thinking...
Donc, un long monologue, Bo Burnham nous dit essentiellement que lui, comme tous les membres de la société actuelle, on est dans une ère qui valorise l'expression de soi, la performance devant les autres et qui exacerbe cette conscience de nous-mêmes, puis notamment par les médias sociaux qui répondent à un désir qui est mis en marché de se représenter, d'une représentation de soi, et qu'avec ça, on a comme une espèce de relation dépendante, je qualifierais même presque toxique, qu'on a face au regard des autres. Et par exemple, dans un autre extrait de chanson de Make Happy, Can't Handle This, il va dire « My biggest problem is you. I want to stay true to myself. I want to give you the night out that you deserve. A part of me loves you. A part of me hates you. A part of me needs you. A part of me fears you. » Donc, une partie de moi vous aime, une autre vous déteste, un autre... part de moi a peur de vous. Et c'est quelque chose qu'on peut tous... vivre cet élément-là de avec les autres, on a un sentiment qui est similaire, et c'est peut-être juste une notion d'échelle de comment cette chose-là est vécue dans le fond. Et je voulais finir Bo Burnham, le temps nous manque malheureusement, mais avec la finale de la chanson God Perspective qu'on a mis en début d'émission, juste pour démontrer encore une fois que Bo Burnham nous fait voyager à l'intérieur d'une même seule chanson.
Alors, on va écouter ça et on va se laisser directement par la suite. Merci beaucoup, Étienne, d'être venu nous voir aujourd'hui pour parler de Bo Burnham.
Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être ici.
En espérant te revoir peut-être la saison prochaine, puisqu'il y aura la continuité de la même saison. On n'est pas sûr, mais on va continuer après Noël à se rencontrer la planète des sages. C'était le dernier épisode, malheureusement, de cette saison-ci. Merci beaucoup, François. Ça a été un plaisir de collaborer avec toi encore une fois.
Merci, Étienne.
Et puis, on va se retrouver la saison prochaine, probablement même heure, même même pas, c'est avec nos collaboratrices également. Donc, on remercie beaucoup pour cette session-ci. Raphaël Laverdière, Émilie Brousseau-Gauthier. À plus tard, tout le monde.
I'm not gonna give you love just 'cause I know that you want me to. If you want love, then the love has gotta come from you.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Bord de la Réveillard Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Réveillard Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est le but!
Ce vendredi 10 décembre, vos remparts reçoivent les Huskies de Rouyn-Noranda dès 19h en direct du centre Vidéotron. Ne manquez pas l'avant-match à 18h45 avec Rick Loutier. Rempart contre Husky, ce jeudi, 19h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Follow and Pan, la tournée Cyclorama. Follow and Pan,